Il est 2h à Paris, minuit en temps universel, un nouveau journal sur Radio France Internationale.
Mathis Limano.
Et l'offensive en cours dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk. Le commandement sur place assure tenir le front. Dans le même temps, les autorités russes recherchent toujours activement Artem Tibofeyev, cet Ukrainien naturalisé russe, accusé d'avoir activement aidé Kiev à attaquer l'aviation russe au début du mois. Retour sous tension de Maurice Kamto au Cameroun après une tournée européenne. Le président du MRC, candidat à la présidentielle, devait se rendre hier au siège de son parti à Douala. Il en a été empêché par les forces de l'ordre. Son entourage dénonce un abus de la part des autorités camerounaises. À Madrid, des dizaines de milliers de manifestants pour demander la démission du Premier ministre et puis investir davantage dans une économie bleue durable. C'est l'appel lancé par des acteurs économiques alors que s'ouvre ce lundi la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Il est devenu l'ennemi public numéro 1 en Russie. Un Ukrainien de 37 ans naturalisé russe est soupçonné par les autorités d'être l'artisan sur le sol russe de l'opération d'ampleur lancée par l'Ukraine au début du mois. Nicolas Feldman, une attaque coordonnée de drones ukrainiens qui a détruit une quarantaine d'avions bombardés, portant un coup sévère à l'aviation russe.
Sa photo est à la une d'une partie de la presse et des réseaux sociaux. Artem Timofeyev est aujourd'hui l'un des hommes les plus recherchés du pays. C'est en 2016 que cet ancien DJ de 37 ans, né en Ukraine et naturalisé russe, s'installe en Sibérie avec sa femme. Elle, styliste et tatoueuse, lui travaille dans l'entreprise de production de pain de son père. Fin 2024, pourtant, Artem Timofeyev se lance dans un tout autre domaine. Il devient entrepreneur dans le transport routier. Depuis l'attaque du 1er juin contre des bases militaires russes, le nom de cet Ukrainien apparaît dans les dépositions de plusieurs chauffeurs de camions. C'est à bord de leur véhicule qu'étaient cachés les drones explosifs. Ainsi, le site d'information russe rapporte que 4 des camions étaient immatriculés au nom de Timofeyev, assez selon les autorités pour impliquer l'homme et sa femme, tous deux placés sur la liste des personnes recherchées. Mais depuis l'attaque, le couple s'est volatilisé. 3 jours avant l'opération, la femme d'Artem, Ekaterina, postait un message sur les réseaux sociaux. Elle annonçait leur départ vers Astana au Kazakhstan pour fêter leurs 9 ans de mariage. C'est la dernière trace de vie du couple. Toutes leurs publications et leurs comptes ont depuis été supprimés.
Et alors que les négociations de paix patinent, l'armée russe lance une offensive contre la région de Dnipropetrovsk, une première en plus de 3 ans de guerre. Pour l'heure, pas de commentaires du côté de Kiev. Seul un commandement du sud du pays assure que les soldats ukrainiens tiennent le front. Renault confirme avoir été contacté par le ministère français des armées. Le constructeur automobile pourrait s'allier à une PME tricolore de la défense afin de produire des drones directement en Ukraine. Aucune décision n'a encore été prise, indique la direction de Renault. La nuit qui arrive est celle de tous les dangers. Le message posté dans la soirée par la députée européenne Rima Hassan, avec 11 autres militants, dont la suédoise Greta Thunberg. Elle compose l'équipage du Madeleine, bateau humanitaire en route vers Gaza. Il longe actuellement la côte égyptienne. Israël a donné l'ordre à sa marine de l'intercepter pour le dérouter vers le port d'Ashdod. Et puis aux États-Unis, les gouverneurs démocrates dénoncent un abus de pouvoir alarmant. Les premiers des 2000 membres de la garde nationale ont été déployés dans les rues de Los Angeles. Donald Trump a fait appel à cette armée de réserve pour rétablir l'ordre. Ces derniers jours, des manifestations contre la politique migratoire du président américain ont dégénéré entre manifestants et forces de l'ordre. Au Cameroun, regain de tension hier autour de Maurice Kamto. Après une tournée en Europe, le président du parti d'opposition MRC et candidat déclaré à la présidentielle devait se rendre au siège du parti dans le quartier Deido à Douala. Une rencontre prévue avec des responsables locaux, des militants ont même afflué devant le siège pour voir l'opposant. Problème, les forces de l'ordre étaient aussi présentes, empêchant dans le même temps Maurice Kamto de quitter son domicile. Dans une vidéo publiée sur Facebook, ce dernier a appelé ses partisans à rentrer chez eux dans le calme. De son côté, le vice-président du MRC, l'avocat Emmanuel Sim, dénonce un abus de la part des autorités camerounaises.
Il nous a été dit que cette réunion n'aurait pas été déclarée. Nous estimons pour nous qu'on n'a pas déclaré une réunion qui se tient dans les locaux d'un parti politique parce que c'est une réunion absolument privée. Elle n'a rien d'une réunion publique. On s'est rendu compte que c'était une interdiction par les autorités. Cela a été communiqué à nos militants par des policiers sur place. Ils leur ont dit qu'ils ont reçu l'ordre d'empêcher que le président national du MRC, Maurice Kamto, puisse tenir la réunion au siège de son parti. Il s'agit d'un abus absolument inadmissible. M. Kamto a été interdit de sortir de chez lui à Douala. Il a reçu des policiers qui lui ont signifié qu'il ne peut pas partir pour aller où que ce soit. Il a demandé que lui soient présentés les documents administratifs. Rien ne lui a été présenté. Et il y a là ce qu'on appelle en droit une véritable voie de fait. C'est une séquestration en bonne et due forme.
À propos recueilli par Amélie Tulle, et le rendez-vous donné au siège du MRC par Maurice Kamto a été reporté à une date ultérieure. 2h05 à Paris et à Madrid, des dizaines de milliers de manifestants réunis hier dans la capitale espagnole pour demander la démission du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. À l'origine du rassemblement, le Parti Populaire qui maintient la pression sur l'exécutif, lequel est éclaboussé par plusieurs affaires de corruption alors que les socialistes espèrent bien aller jusqu'au bout de leur mandat en août 2027. À Madrid, Diane Cambon.
C'est la sixième fois en 2 ans que le Parti populaire convoque un grand rassemblement contre ce qu'il considère le gouvernement illégitime de Pedro Sanchez. Le slogan de la manifestation ne prête pas à la confusion, mafia ou démocratie. Dans la foule où des centaines de personnes brandissaient des drapeaux or et rouge aux couleurs de l'Espagne, les cris de Pedro Sanchez « démission » ont résonné avec force. Carmen, âgée d'une cinquantaine d'années, réclame le départ de Pedro Sanchez.
Tout ce qui se passe en Espagne, c'est incompréhensible. Et tout ce qui se passe avec ce gouvernement, c'est tout simplement indigne et révulsant.
C'est aussi le cas de Juan Rosé, un septuagénaire qui tire à boulet rouge contre l'exécutif de gauche.
Ce gouvernement ne fait rien de bien, rien de droit, il ne dit pas la vérité, tout est faux avec eux.
Cette manifestation a été convoquée par la droite après la fuite récente dans la presse d'une conversation entre une ancienne militante du Parti Socialiste et un commandant de la garde civile et un entrepreneur. La militante aurait cherché à obtenir des informations concernant des affaires visant des proches de Pedro Sanchez. Le leader socialiste accuse les conservateurs et l'extrême droite de mener une campagne de diffamation afin de déstabiliser le gouvernement. Diane Cambon, Madrid, RFI.
Arrêter de dilapider l'océan et investir dans une économie bleue durable. Le message envoyé par le Forum Finance et Économie Bleue organisé en prélude de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'ouvre ce lundi à Nice. Une réunion présidée par Pascal Lamy, ancien commissaire européen. Et pour lui, il existe une autre voie. Ces 5 dernières années, 25 milliards d'euros de projets rentables et durables ont été répertoriés.
L'océan se dégrade. Si on n'investit pas dans l'océan, alors on aura un gros problème, ce qui est absolument incontestable. Mais ça ne mène pas assez à faire bouger les acteurs financiers. Il faut faire bouger les acteurs financiers et pour ça, leur dire c'est votre intérêt et voilà pourquoi. Et voilà pourquoi cet échantillon, en quelque sorte, de 25 milliards qu'on a réuni est très important parce que c'est la démonstration que l'économie bleue, ça marche. Si vous laissez tranquille pendant 5 ans une zone qui a été dégradée, alors elle se régénère et elle redevient économiquement intéressante, et pas seulement elle, mais ce qu'il y a autour. Si vous prenez le cas d'une île des Caraïbes, dont la barrière corallienne est endommagée, ce qui diminue ses recettes touristiques, si elle investit dans la restauration de sa barrière corallienne, elle contribue à dynamiser son économie, et il va y avoir des investisseurs internationaux qui vont s'intéresser à une barrière corallienne restaurée, alors qu'ils ont déserter cette économie à partir du moment où elle devenait naturellement pas attractive. Donc la protection est un investissement d'ordre économique.
L'ancien commissaire européen Pascal Lamy avec Lucille Gimbert. Dans ce contexte, le Royaume-Uni dévoile un plan visant à étendre l'interdiction du chalutage de fond à plus de la moitié des aires marines protégées d'Angleterre. Une pratique destructrice, souligne Londres. Les Portugais s'embarquent de la Ligue des Nations dans une finale 100% ibérique. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont battu les Espagnols tenant du titre au tir au but. Plus tôt dans la journée, l'équipe de France s'est fait une place sur le podium en battant l'Allemagne 2-0. Et puis, Roland Garros, c'est chez lui. Pour la deuxième année consécutive, Carlos Alcaraz s'est adjugé le tournoi parisien du Grand Chelem. Dans une finale dantesque, l'Espagnol s'est finalement imposé en 5-7 contre le numéro 1 mondial Yannick Sinner. Un duel qui a duré 5h29, établissant ainsi un nouveau record pour une finale de Roland Garros. À l'écoute de RFI, il est 2h10 à Paris, 2h de moins en temps universel.